Léon Tolstoï. Contes et fables. Comment Emelka Pougatchev me donna une pièce d'argent. Histoire vraie. J'avais alors 8 ans. Et nous habitions notre propriété située dans le gouvernement de Kazan. Je me rappelle que mon père et ma mère étaient très inquiets et parlaient souvent de Pougatchev. Mais ce n'est que plus tard que j'appris ce qu'était ce brigand de Pougatchev. Il se faisait passer pour le tsar Pierre III. Il avait réuni une grande quantité de bandits sous ses ordres, et ceux-ci pendaient les nobles tandis qu'ils libéraient les serfs. On disait qu'il était déjà avec sa bande tout près de chez nous. Mon père avait l'intention de partir à Kazan sans nous emmener, nous autres enfants, car on était en novembre. Le froid était très vif et les routes dangereuses. Mes parents firent donc leurs préparatifs de voyage en promettant de ramener des cosaques de la ville pour nous protéger. Ils partirent et nous restâmes seuls, ma sœur et moi, avec notre niagna, Anna Trofimovna. Mais pendant leur absence, nous logeâmes toutes dans la même chambre au rez-de-chaussée. Je me rappelle qu'un soir, la niagna berçait ma sœur dans ses bras et marchait de long en large. La petite avait mal au ventre et moi, j'habillais ma poupée. Notre fille de service Paracha et la femme du sacristain étaient assises près de la table et s'entretenaient de Pougatchev en prenant du thé. J'écoutais tout en habillant ma poupée les horreurs qu'elle racontait. « Je me souviens, disait la femme du sacristain, que Pougatchev vint un jour à 40 lieues de chez nous, pendit le barin à la porte cochère et tua tous les enfants. « Mais comment ces assassins pouvaient-ils tuer ces enfants ? Demanda Parache. « Ah, voilà ma petite mère. Il prenait les enfants par les pieds et les frappait contre le mur. « Assez donc ! Raconter de pareilles horreurs devant un enfant. Va donc, Katinka, va dormir, c'est l'heure. » Et j'allais aller me coucher, quand, tout à coup, nous entendîmes frapper à la porte cochère. Les chiens aboyèrent et des voix crièrent. La conteuse et Paracha coururent pour voir et revinrent aussitôt en criant « C'est lui, c'est lui !» La niagna oublia que ma petite sœur avait mal au ventre. Elle la jeta sur le lit et fouilla les malles. Elle en retira d'abord un petit sarrafin, me déshabilla complètement, me déguisa en paysanne et me mit un mouchoir sur la tête. Puis elle me dit « Écoute, si l'on te demande qui tu es, dis que tu es ma fille, entends-tu » À peine fus-je habillée que nous entendîmes en haut un bruit de bottes comme si plusieurs personnes marchaient. La conteuse accourut « c'est lui qui est venu. Il ordonne qu'on tue des brebis et il réclame du vin et des liqueurs. » Anna Trofimovna répondit « Donne tout, mais ne dis pas que ce sont les enfants du barin. Dis qu'ils sont tous partis et que celle-ci est ma fille. » On ne dormit pas la nuit. Des cosaques entraient à chaque instant chez nous. Mais Anna Trofimovna n'avait pas peur d'eux. Aussitôt qu'il en entrait un, elle lui disait « Que te faut-il, mon pigeon? Nous n'avons rien. Il n'y a ici que des petits-enfants et moi, vieille femme. » Vers le matin, je m'endormis et, lorsque je me réveillais, j'aperçus un cosaque dans une pelisse de velours vert et Anna Trofimovna qui lui faisait de grands saluts. Il montra ma sœur et demanda « À qui cet enfant ?» Anna Trofimovna répondit « C'est l'enfant de ma fille. En partant avec mes maîtres, elle me l'a confié. « Et celle-ci » reprit-il en me désignant. « C'est aussi ma petite fille. » De la main, il me fit signe d'approcher. J'eus peur. Mais voilà qu'Anna Trofimovna me dit « Va, Katyushka, n'aie pas peur. » Je m'approchai, il prit ma joue et dit à Anna « Vois-tu comme elle est blanche et quelle beauté ce sera. » Il tira de sa poche une poignée de pièces blanches, en prit une de 10 kopecks et me la donna. « Voilà, dit-il, garde-la en souvenir du tsar. » Et il sortit. Il resta chez nous encore 2 jours, mangeant, buvant, cassant tout, mais ne brûlant rien. Enfin, il partit. Lorsque mes parents revinrent, ils ne surent comment remercier la bonne Anna Trofimovna. Ils lui offrirent de la franchir. Mais elle refusa et resta jusqu'à sa dernière heure avec nous. Pour moi, on m'appela depuis ce temps la fiancée de Pougatchev. Quant à la pièce qu'il me donna, je l'ai gardée, et, lorsque je la contemple, je me souviens de mon jeune âge et de la bonne Anna Trofimovna. Le juge habile. Conte. L'émir d'Alger, Bawakas, voulut se rendre compte par lui-même si l'on n'exagérait pas en lui affirmant que dans une ville de la province se trouvait un juge d'une habileté extraordinaire, qui reconnaissait infailliblement la vérité, au point que pas un fripon ne pouvait lui donner le change. Bawakas se déguisa donc en marchand et se rendit dans la ville où habitait le juge. À l'entrée de cette ville, un estropié s'approcha de l'émir et lui demanda l'aumône. Bawakas lui donna quelque chose et allait continuer sa route lorsque l'estropié le saisit par les vêtements. « Que veux-tu ? » lui demanda l'émir. « Est-ce que je ne t'ai pas fait l'aumône ?»« Tu m'as bien fait l'aumône, » reprit le mendiant. « Mais fais-moi encore la grâce de m'emmener sur ton cheval jusqu'à la place de la ville, car les chameaux et les chevaux pourraient m'écraser. » Bawakas prit en croupe le mendiant et ils arrivèrent ainsi sur la place. Là, il arrêta son cheval, mais le mendiant ne descendit pas. « Pourquoi restes-tu là ? » lui demanda l'émir. « Descends, nous sommes arrivés. »« Et pourquoi descendrai-je ? » reprit le mendiant. « Ce cheval est à moi. Si tu ne veux pas me le laisser de plein gré, allons trouver le juge. » La foule se formait autour d'eux, on écoutait leur discussion. « Allez chez le juge !» leur criait-on. « Il vous mettra d'accord. » Bawakas et le mendiant se rendirent donc chez le juge. La foule se pressait au tribunal. Le juge appelait à tour de rôle tous ceux qu'il devait juger. Avant que le tour de l'émir vînt, le juge appela devant lui un savant et un moujik. Tous deux disputaient à propos d'une femme. Le moujik affirmait que c'était sa femme et le savant prétendait que c'était la sienne. Le juge, après les avoir entendus, garda un instant le silence, puis il dit « Laissez la femme chez moi, et vous, revenez demain. » Quand ceux-ci furent partis, entrèrent un boucher et un marchand d'huile. Le boucher était tout couvert de sang, et le marchand portait des taches d'huile. Le boucher tenait dans sa main de l'argent, et le marchand tenait la main du boucher. Le boucher disait « J'ai acheté de l'huile chez cet homme, et je tirai ma bourse pour le payer, lorsqu'il me saisit la main pour me voler l'argent, et nous sommes venus devant toi, moi tenant ma bourse, et lui me tenant la main. Non, l'argent m'appartient, et lui, c'est un voleur. Ce n'est pas vrai, répondit le marchand d'huile. Le boucher vint m'acheter de l'huile, et il me demanda de lui changer une pièce d'or. Je pris l'argent, et je le mis sur le comptoir, il s'en empara, et allait s'enfuir, alors je le saisis par la main, et l'amenai ici. Après un silence, le juge répondit. Laissez l'argent chez moi, et revenez demain. » Quand le tour de Bawakas et du mendiant arriva, l'émir raconta comment la chose s'était passée. Le juge l'écouta, puis il demanda au mendiant de s'expliquer. « Tout cela n'est pas vrai, » reprit celui-ci. « Moi, j'étais un cheval et je traversais la ville. Quand il me demanda de le prendre en croupe et de le conduire sur la place, je le fis monter sur mon cheval et je le conduisis là où il voulait se rendre. » Mais il refusa de descendre en disant que le cheval était à lui, ce qui n'est pas vrai. Après un nouveau silence, le juge dit « Laissez le cheval chez moi et revenez demain. » Le lendemain, une grande foule se réunit pour connaître les décisions du juge. Le savant et le moujik s'approchèrent les premiers. « Prends la femme, » dit le juge au savant, « et condamne au moujik 50 coups de bâton. » Le savant prit sa femme et le moujik subit sa punition devant tout le monde. Puis le juge appela le boucher. « L'argent est à toi, » lui dit-il. Et désignant le marchand d'huile, « qu'on lui donne 50 coups de bâton, » ajouta-t-il. Alors vint le tour de Bawakas et de l'estropié. Reconnaîtrais-tu ton cheval entre 20 autres ? Demanda le juge à l'émir. Je le reconnaîtrai. Et toi ?
Moi aussi, dit l'estropié.
Suis-moi, fit le juge à Bawakas. Ils se rendirent à l'écurie. L'émir reconnut aussitôt son cheval parmi 20 autres. Puis le juge appela l'estropié dans l'écurie et lui ordonna de désigner le cheval. Le mendiant reconnut le cheval et le désigna. Alors le juge revint à sa place et dit à Bawakas, « Le cheval est à toi, prends-le. » Puis il fit donner 50 coups de bâton au mendiant. Après cette dernière exécution, le juge s'en retourna chez lui et Bawakas se suivit. « Que me veux-tu ? » lui demanda le juge. « Serais-tu mécontent de mon jugement ?»«
Du tout, j'en suis fort satisfait, » répondit l'émir. « Seulement, je voudrais savoir comment tu as su que la femme était au savant et non pas au moujik, que l'argent était au boucher plutôt qu'au marchand d'huile et que le cheval m'appartenait. »
Voilà comment j'ai su la vérité quant à la femme du savant. Je l'appelai le matin chez moi et je lui dis « Verse de l'encre dans mon encrier. » Elle prit l'encrier, le nettoya vivement et adroitement et l'emplit d'encre. Donc elle était habituée à cette besogne. Si elle eût été la femme du moujik, elle n'eût pas su s'y prendre. Je jugeai par là que le savant avait raison. Quant à l'argent, voilà comment j'appris la vérité. J'ai mis l'argent dans une cuvette pleine d'eau et j'ai regardé ce matin s'il surnageait de l'huile. Or, si l'argent avait appartenu au marchand d'huile, celui-ci l'aurait taché au contact de ses mains huileuses. Comme l'eau restait claire, l'argent était au boucher. Pour le cheval, c'était plus difficile. Le mendiant reconnut aussi vite que toi son cheval parmi les 20 autres. D'ailleurs, je ne vous ai soumis tous deux à cette épreuve que pour voir lequel de vous le cheval reconnaîtrait. Quand tu t'es approché de ton cheval, il a tourné la tête de ton côté, tandis que, lorsque le mendiant l'a touché, il a baissé l'oreille et levé une jambe. Voilà comment j'ai reconnu que tu étais le vrai propriétaire du cheval. Alors Bawakas lui dit, « Je ne suis pas un marchand. Je suis l'émir Bawakas. Je suis venu ici pour voir si ce que l'on dit de toi est vrai. Je vois maintenant que tu es un sage et habile juge. Demande-moi ce que tu voudras, je te l'accorderai. »
« Je n'ai pas besoin de récompense, » répondit le juge. « Je suis assez heureux déjà. Des compliments de mon émir. »
Comment le moujik partage la loi. Conte. Un pauvre moujik n'avait plus de pain. Il se décida à demander quelque chose aux barines. Pour ne pas se présenter devant lui les mains vides, il prit une oie, la fit rôtir et la lui porta. Le barine prit l'oie et dit au moujik. « Je te remercie, moujik, de cette oie. Seulement, je ne sais pas comment la partager. J'ai une femme, deux fils et deux filles. Comment s'arranger pour que chacun soit content ?» Le moujik dit, « C'est moi qui vais faire le partage. » Il prit le couteau, coupa la tête et dit aux barines, « Tu es la tête de la maison, prends la tête. » Puis coupant le derrière de l'oie, il le donna à la barinia. « Tu dois, dit-il, t'asseoir et rester à la maison. C'est à toi que revient ce morceau. » Après, il coupa les deux pattes, les donna aux deux fils et leur dit, « Vous êtes les pieds, vous devez marcher sur les traces de votre père. » Et coupant les ailes, il les offrit aux deux filles et ajouta, « Quant à vous, voici les ailes, car vous vous envolerez bientôt de la maison. » Et désignant ce qui restait, il dit, « Ceci est pour moi. » Le barine sourit et donna au moujik du pain et de l'argent. Un riche moujik, apprenant que le barine avait donné de l'argent et du pain à un moujik pour une oie, fit rôtir 5 oies et les porta au barine. Le barine dit, « Merci pour les oies, mais je suis bien embarrassée, car avec ma femme et mes enfants, nous sommes 6. Comment partager ces 5 oies entre nous ?» Le riche moujik réfléchissait et ne pouvait rien trouver. Le barine envoya chercher le pauvre moujik et lui ordonna de faire le partage. Le pauvre moujik prit une oie pour le barine et la barinia et dit, « Vous voilà 3 ensemble avec cette oie.
Il en donna une autre aux fils et leur dit, « Vous serez trois avec ces toits. » Puis il donna l'autre aux filles. « Et vous aussi, dit-il, vous serez trois. » Alors il prit les deux oies qui restaient et ajouta, « Et nous aussi, nous restons trois. » Le barine sourit, donna encore de l'argent au pauvre Moujik et renvoya le riche. Trois amis. Un homme avait trois amis, son argent, sa femme et ses bienfaits. Étant sur le point de mourir, il les envoya chercher tous les trois pour leur faire ses adieux. Et il dit au premier qui se présenta, « Adieu, ami, je meurs. » L'ami lui répondit, « Adieu, lorsque tu seras mort, je ferai brûler un cierge pour le repos de ton âme. » Le deuxième vint, lui fit ses adieux et lui promit de l'accompagner jusqu'à la tombe. Enfin le troisième arriva, « Je meurs, lui dit le mourant. « Adieu. » « Ne dis pas adieu, lui répondit l'ami. « Je ne me séparerai pas de toi. Si tu vis, je vivrai. Si tu meurs, je te suivrai. » L'homme mourut. L'argent lui donna un cierge. Sa femme l'accompagna jusqu'à la tombe.
Ad grobe ne va più.
Et ses bienfaits le suivirent dans la vie et dans la mort. Les richesses que Dieu donne à l'homme. Un homme, mécontent de son sort, se plaignait de Dieu. « Le bon Dieu, disait-il, envoie aux autres des richesses et à moi ne me donne rien. Comment puis-je débuter dans la vie ne possédant rien ?» Un vieillard entendit ces paroles et lui dit « Es-tu aussi pauvre que tu crois ? Dieu ne t'a-t-il pas donné la jeunesse et la santé ?
Je ne dis pas non, mais je puis être fier de ma force et de ma jeunesse. »
Le vieillard prit alors la main droite de l'homme et lui demanda « Voudrais-tu te laisser couper cette main pour 1000 roubles ?»«
Non, je ne le voudrais certes pas. »
« Et la main gauche ? » ?»«
Celle-là non plus. »
« Et consentirais-tu à devenir aveugle pour 10 000 roubles ?»«
Que Dieu m'en préserve ! Je ne voudrais pas donner un œil pour la plus forte somme !»«
Vois, ajouta le vieillard, quelle richesse Dieu te donne ! Et cependant, tu te plains. » Le tsar et la chemise. Un tsar, se trouvant malade, dit « Je donnerai la moitié de mon royaume à celui qui me guérira. » Alors, tous les sages se réunirent et se concertèrent pour guérir le tsar. Mais ils ne trouvèrent aucun moyen. Un d'entre eux, cependant, déclara qu'on pouvait guérir le tsar. « Si l'on trouve sur terre un homme heureux, dit-il, qu'on lui enlève sa chemise et que le tsar la mette, il sera guéri. » Le tsar fit rechercher dans le monde un homme heureux. Les envoyés du tsar se répandirent par tout le royaume. Mais ne découvrirent pas celui qu'ils cherchaient. Il ne se trouva pas un homme qui fût content. L'un était riche mais malade. L'autre était bien portant, mais pauvre. Un troisième, riche et bien portant, se plaignait de sa femme. Celui-ci de ses enfants. Tous désiraient quelque chose. Un soir, le fils du tsar, passant devant une pauvre chaumière, entendit quelqu'un s'écrier « Grâce à Dieu, j'ai bien travaillé, j'ai bien mangé, je vais me coucher. »
Que me manque-t-il ?
Le fils du tsar fut rempli de joie. Il ordonna qu'on aille tout de suite enlever la chemise de cet homme, qu'on lui accorde en échange tout l'argent qu'il exigera et qu'on envoie sa chemise au tsar. Les envoyés se rendirent en hâte chez cet homme heureux et voulurent lui enlever sa chemise. Mais l'homme était si pauvre qu'il n'avait pas de chemise.
Deux moujiks
se rencontrèrent, l'un revenait de la ville et l'autre s'y rendait. Leurs traîneaux s'accrochèrent. L'un d'eux cria « Laisse-moi passer, il faut que je me rende vite à la ville !» Et l'autre reprit « C'est toi qui dois me céder la place, il faut que je rentre à la maison !» Ils crièrent longtemps. Enfin, un troisième moujik, témoin de leur querelle, leur dit « Celui de vous qui est le plus pressé doit se retirer en arrière. »
La puce et la mouche. Conte.
La puce et la mouche se rencontrèrent. La puce revenait de la campagne et la mouche allait à la ville. La puce regarda la mouche et ne la reconnut pas, toute sèche, le ventre plat et les pieds longs. La mouche s'étonna aussi de l'état de la puce, tout aplati et bossu. « Bonjour, lui dit la puce, d'où viens-tu ? »
« Je viens de la ville, répondit la mouche.
« Et pourquoi es-tu devenue si sèche ? Ajouta la puce.
« Parce que, reprit la mouche, on ne vit pas bien là-bas.
« Et pourquoi cela ?
On y est trop propre. On entre dans une riche maison et l'on se dit « Voilà où je vais bien me nourrir. »
Mais le repas terminé, deux domestiques arrivent qui enlèvent tout en mangeant une partie et ce qui reste sur la table est lavé, nettoyé. D'autres fois, on va chez un pauvre. Il n'a pas toujours de quoi manger pour lui-même. Mais malgré cela, il est propre. On lave chez lui la moindre chose. Alors je me suis décidé à quitter la ville. Je vais de nouveau à la campagne. Là, du moins, si la nourriture est plus simple, la vaisselle n'est pas si bien lavée.
Eh bien, et toi, petite tante, comment vis-tu, là ?
Ouf, répondit la puce. Cela ne va pas non plus à la campagne. Les gens dorment peu et deviennent très maigres. On saute sur le banc ou sur le poêle et l'on ne trouve rien à manger. Si par hasard on mord sur quelque chose vite, les gens se lèvent, courent au champ, où ils passent parfois les nuits. Alors je vais à la ville. Peut-être trouverai-je plus facilement à me nourrir là-bas.
Va, va, ma petite. Ce séjour convient à ta profession. Tu y trouveras des gens très gras et qui dorment jusqu'à midi.
Je me suis trouvée un jour avec une puce. Elle avait tellement sucé la chair des barines qu'elle pouvait à peine se traîner.
Alors, adieu, dit la puce. J'aurai peut-être la même chance. Comment ne trouverai-je pas à bien vivre là où il n'y a que des dormeurs ?
La puce sauta jusqu'à la ville et la mouche vola du côté de la campagne.
L'Indien et l'Anglais. Histoire vraie.
Les Indiens firent un jeune Anglais prisonnier. Ils l'attachèrent à un arbre et voulurent le tuer. Un vieil Indien s'approcha et dit « Ne le tuez pas, donnez-le-moi. » On le lui laissa. Le vieil Indien détacha le jeune homme, l'emmena dans sa cabane, le fit manger et lui donna l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain matin, l'Indien ordonna à l'Anglais de le suivre. Ils marchèrent longtemps et lorsqu'ils furent près du camp anglais, l'Indien dit au jeune homme « Les tiens ont tué mon fils. Moi, je te sauve la vie. Retourne près d'eux. »
Va, et continuez de tuer les nôtres. » L'Anglais parut surprise et répondit : « Pourquoi te moques-tu de moi ? Je sais que les miens ont tué ton fils. Tue-moi donc au plus vite. » L'Indien alors reprit : « Quand on voulait te tuer, je me suis rappelé mon fils. » Et cela m'a ému. Je ne me joue donc pas de toi. Va chez les tiens et tue-nous, si tu veux. » Et l'Indien laissa partir l'Anglais. Les pêches. Le paysan Tikhon Kouzmitch, revenant de la ville, appela ses enfants. « Regardez, mes enfants, leur dit-il, quel cadeau l'oncle Efim vous envoie !» Les enfants accoururent et le père ouvrit un petit paquet. « Voyez les jolies pommes !» s'écria Vania, un jeune garçon de 6 ans. « Regarde, maman, comme elles sont rouges !»«
Non, ce ne sont probablement pas des pommes, dit Sergueï, le fils aîné.
« Vois leur peau. On dirait qu'elle est recouverte de duvet. »«
Ce sont des pêches, » dit le père.
« Vous n'avez pas encore vu de pareils fruits. L'oncle Efim les a cultivés dans la serre, car il prétend que les pêches ne poussent que dans les pays chauds et que chez nous, on ne peut les récolter que dans les serres. »«
Et qu'est-ce qu'une serre ?» demanda Volodia, le troisième fils de Tikhon.
« Une serre, c'est une grande maison dont les murs et le toit sont vitrés. L'oncle Efim m'a expliqué qu'on l'a construite ainsi pour que le soleil puisse réchauffer les plantes. L'hiver, au moyen d'un poêle particulier, on maintient la température au même degré.
Voilà pour toi, femme, la plus grosse pêche. Et ces 4-là sont à vous, enfant. »
« Eh bien, demanda Tikhon le soir même, comment trouvez-vous ces fruits ?
Ils ont un goût si fin et savoureux, répondit Sergueï, que je veux planter le noyau dans un pot. Il en poussera peut-être un arbre qui se développera dans l'isba.
Tu seras peut-être un bon jardinier. Voilà maintenant que tu songes à faire pousser des arbres, reprit le père.
Et moi, reprit le petit Vania, je l'ai trouvé si bonne, la pêche, que j'ai demandé à maman la moitié de la sienne. Mais le noyau, je l'ai jeté.
Toi, tu es encore tout jeune, dit le père.
« Vania a jeté le noyau, » dit le second fils Vassili.
« Mais je l'ai ramassé et je l'ai cassé. Il était bien dur. Il y avait dedans une amande qui avait le goût de la noix, mais plus amère. Quant à ma pêche, je l'ai vendue 10 copecks. Elle ne valait d'ailleurs pas davantage. »
Tikhon hocha la tête.
« C'est trop tôt pour toi de commencer à faire du commerce. Tu veux donc devenir marchand ?
Et toi, Volodia, tu ne dis rien.
Pourquoi ? Demanda Tikhon à son troisième fils qui se tenait à l'écart.
Ta pêche avait-elle bon goût ?
Je ne sais pas, répondit Volodia.
Comment tu ne sais pas ? Reprit le père. Tu ne l'as donc pas mangée ?
Je l'ai portée à Grisha, répondit Volodia. Il est malade et je lui ai raconté ce que tu nous as dit à propos de ce fruit. Et il ne faisait que contempler la pêche. Je la lui ai donnée, mais Grisha ne voulait pas la prendre. Alors je l'ai posée près de lui et je me suis enfuie.
Le père mit la main sur la tête de son fils et lui dit : « Dieu te la rendra. »